Bonjour à toutes et à tous. Pour son deuxième épisode, Codecast est heureux d'accueillir M. Rémy Yates, qui est procureur général près la Cour de cassation, qui nous fait l'honneur d'être le parrain du procès fictif dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je salue par la même occasion notre cher doyen, M. Jean-Baptiste Perrier, qui nous fait aussi l'honneur de sa présence. Et je lui laisse donc tout de suite la parole pour entamer cette discussion.
Monsieur le procureur général, merci d'être présent aujourd'hui.
Merci à vous, monsieur le doyen, de m'avoir invité ici à l'Université Aix-Marseille pour être le témoin de ce procès fictif que j'ai hâte de découvrir.
Merci, monsieur le procureur général, de votre venue. Vous êtes en effet le parrain de cette nouvelle édition du procès fictif, organisée dans le cadre de la semaine d'engagement de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et il est important que nos étudiants en droit puissent, à cette occasion, rappeler la place du droit et de la justice comme outil pour lutter contre ces fléaux. Alors, pour les éditeurs de Codecast, parlons droit. Pourriez-vous nous dire comment le droit appréhende le racisme et l'antisémitisme ?
La justice joue un rôle absolument essentiel dans cette lutte et un rôle d'autant plus important aujourd'hui que la situation est difficile sur ce terrain-là. Le droit appréhende le racisme, l'antisémitisme de deux façons, à travers des infractions spécifiques, les infractions de la loi 1881, comme par exemple la provocation au racisme, à l'antisémitisme, des infractions donc spécifiques. Et par ailleurs, le code pénal prévoit une circonstance aggravante dès lors que une infraction de droit commun est inspirée par un mobile raciste ou antisémite. C'est le cas par exemple des violences, c'est le cas aussi des dégradations qui sont punies plus sévèrement lorsque l'auteur a agi par un mobile raciste ou antisémite. Et l'institution judiciaire, elle répond très fermement grâce à des enquêtes qui sont menées par des services spécialisés et avec des réponses qui doivent être des réponses adapté en fonction de la nature des faits, puisque les faits peuvent être, d'une gravité différente, aller jusqu'au crime. Et dans ces réponses, la justice conjugue, allie à la fois la volonté de faire œuvre de pédagogie, de formation, et également de très grande fermeté pour les faits les plus graves.
On voit avec ces infractions que le droit prend la lutte contre le racisme et l'antisémitisme au sérieux. Il faut encore que ces infractions soient poursuivies. Comment présenteriez-vous le rôle de l'autorité judiciaire dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ?
Le rôle de l'autorité judiciaire, il est avant tout de se donner tous les moyens possibles pour ne rien laisser passer et pour engager, lorsqu'une infraction de ce type est commise, des poursuites par les différentes voies offertes par la loi. Et la difficulté, l'une des difficultés à laquelle l'autorité judiciaire se trouve confrontée, c'est la difficulté de la preuve. C'est la raison pour laquelle l'autorité judiciaire mobilise des services spécialisés. Par exemple, l'Office central de lutte contre les crimes de haine, qui a été renforcé encore et au sein duquel la gendarmerie joue un rôle très important. La justice doit poursuivre ces crimes et elle doit apporter à ces délits, à ces crimes, des réponses qui soient des réponses fermes, mais aussi des réponses adaptées, puisque il y a tout un champ d'infractions. Il y a une gravité qui peut être de différents niveaux. Il peut y avoir des délits. Il peut y avoir, bien sûr, également des crimes beaucoup plus graves. Lorsque, par exemple, ces délits sont isolés, lorsqu'ils ont été commis, par exemple, par des mineurs, il faut savoir aussi, privilégier la pédagogie. Et c'est comme cela, par exemple, qu'ont été mises en œuvre des réponses dites alternatives. À Paris, nous avons mis en place un stage au mémorial de la Shoah. Je sais qu'ici, il y a aussi des actions avec le camp des Mille. L'idée, c'est à la fois que cette réponse associe pédagogie, prévention et en même temps fermeté lorsque celle-ci est nécessaire.
Vous évoquez les réponses qui était apportée à Paris. Et dans vos précédentes fonctions, vous avez été notamment procureur de la République de Paris, un poste particulier à bien des égards, mais notamment parce que le parquet de Paris est compétent pour certaines infractions commises par l'Internet. Or, les discours de haine se propagent souvent sur l'Internet. Comment vos services appréhendent ces comportements difficiles à localiser et donc difficiles à poursuivre?
Ce qu'il faut savoir, c'est que, au départ, les infractions à caractère raciste étaient surtout prévues par la loi de 1881 et étaient assez difficiles à poursuivre pour des raisons notamment procédurales. Aujourd'hui, tout le mouvement du législateur va vers un alignement vers le droit commun pour permettre une répression plus facile de ces infractions à caractère raciste ou antisémite. Un exemple, aujourd'hui, les infractions que je citais de provocation à la haine peuvent être poursuivies suivant des modes rapides et faire l'objet de comparutions par procès-verbal ou même de comparutions immédiates en cas de flagrance. Donc, nous allons vers un alignement du droit commun et nous avons des outils plus importants. La vraie difficulté aujourd'hui pour prendre en compte ce type d'infraction, ce sont les nouveaux modes de diffusion et notamment ces messages de haine diffusés par les réseaux sociaux. Et c'est une problématique à laquelle le parquet de Paris a voulu s'attaquer, notamment avec de grandes affaires qu'il a eu à traiter, je pense à l'affaire dite Mila. Le constat que j'avais pu faire lors de mes fonctions comme procureur de Paris, c'est qu'il y avait un éparpillement très important à la fois des auteurs, mais aussi des victimes, puisque les réseaux sociaux, assurent une diffusion extrêmement large sur tout le territoire. Et que les juridictions, souvent, se sentaient désarmées pour assurer la poursuite de ces infractions. Et comme le parquet de Paris a une compétence nationale de fait, puisque c'est le lieu de diffusion qui caractérise le lieu de commission et qui permet donc la poursuite, j'ai créé en 2019, le pôle national de lutte contre la haine en ligne pour centraliser ces poursuites et pour faire en sorte que nous ayons véritablement une équipe spécialisée pour mieux lutter et mieux appréhender ces phénomènes, puisqu'il faut aujourd'hui une spécialisation des magistrats spécialisés, mais aussi des assistants spécialisés, puisqu'il nous faut des personnes qui puissent développer une approche technique permettant de mettre au jour ces discours de haine. Et ce pôle national, qui travaille en étroite collaboration avec les services de police spécialisés, mais également avec Pharos, ce pôle a déjà été saisi près de 2000 fois et il permet donc d'engager des poursuites. Il permet également de diffuser une information et une formation à l'ensemble des juridictions de France pour lutter contre ces phénomènes, en ayant aussi noué des relations avec les opérateurs pour obtenir des réponses à des réquisitions, parce que la vraie difficulté pour appréhender les auteurs, c'est de pouvoir les repérer et pouvoir après les atteindre. Et pour cela, il faut que les opérateurs répondent aux réquisitions de la justice. C'est parfois difficile, notamment lorsque ces auteurs d'infractions sont situés à l'étranger et diffusent leurs messages de haine depuis des pays tiers.
Ces expériences sont vraiment très intéressantes pour nos auditeurs et pour profiter de votre expérience. Aujourd'hui, vous êtes donc procureur général près la Cour de cassation, des fonctions très différentes de celles de procureur général près la Cour d'appel de Paris ou de procureur de la République. Pour terminer cet entretien et pour profiter de votre venue au-delà de cette semaine d'engagement contre le racisme et l'antisémitisme, comment présenteriez-vous les fonctions de procureur général près la Cour de cassation ?
Alors, j'aborde d'ailleurs dans ces fonctions aussi ces problématiques de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais à travers, là, une approche beaucoup plus juridique, puisque le procureur général près de la Cour de cassation dirige une équipe, le parquet général, avec un rôle qui est un rôle particulier, qui n'est pas celui d'un procureur d'une juridiction du fond ou d'un procureur général d'une cour d'appel, qui est celui de rendre des avis, d'éclairer la Cour de cassation dans l'intérêt, c'est le sens, ce sont les termes de la loi, dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Et donc le rôle du procureur général, c'est d'animer cette équipe parquet général, puisque les avocats généraux sont présents dans toutes les chambres de la Cour de cassation, pour rendre des avis, pour éclairer la Cour, et pour être aussi ce lien avec l'extérieur, puisque le parquet général, représente en quelque sorte cette fenêtre ouverte sur l'extérieur, puisqu'il peut, par ses avis, enrichir la réflexion de la Cour, et par des avis nourris de l'extérieur et des apports de ses partenaires et des différents contacts qu'il peut avoir. C'est l'un des rôles du procureur général près la Cour de cassation, qui est également président du Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation compétente pour les magistrats du parquet, qui est également vice-président du Conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature, et qui est également, et c'est une de ses missions, qui là se rapproche beaucoup plus d'ailleurs des missions du fond, des juridictions du fond, qui est également le procureur de la Cour de justice de la République, juridiction chargée de juger les ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Donc quatre fonctions finalement assez différentes les unes par rapport aux autres, mais qui confèrent au titulaire de cette fonction, le procureur général pour la Cour de cassation, un rôle particulier et une responsabilité particulière à l'égard de l'ensemble de l'institution. C'est pour cela aussi que le procureur général représente le parquet, puisqu'il est le premier magistrat du ministère public de France et qu'il exerce donc à travers ses différentes responsabilités une forme de magistère moral au sein de la magistrature. Voilà comment je pourrais brièvement, bien sûr, décrire les fonctions du procureur général près de la Cour de cassation.
Merci pour ces éclairages et encore merci pour votre venue auprès de nos étudiants et d'avoir accepté d'être le parrain de cette nouvelle édition. C'était passionnant. Merci, cher Philippe.
Bien, merci à vous, monsieur le procureur général.
Merci de m'avoir accueilli.
Nous espérons que ce podcast passionnera nos auditeurs et nous avons hâte maintenant d'assister au procès fictif. Merci beaucoup.